Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est toujours un plaisir, chers frères et sœurs, de vous retrouver ici chaque mois pour vous apporter la parole de Dieu. Et je reviens un petit peu sur ce qui a été dit juste avant, qui est encourageant, puisque la méditation de ce matin disait « Jésus, sois le centre ». Et tu l'as très bien dit, Adrien, Jésus veut être le centre. Il est le centre. C'est nous qui ne le laissons pas faire souvent dans nos comportements. Donc je vous encourage vraiment à ce qu'il soit le centre. Et tu as comparé effectivement le corps de l'homme à une voiture, Jésus étant le moteur. Je rappelle que ça, c'est le carburant. C'est important. Et qu'une voiture sans essence, ça n'avance pas. Reprenons un petit peu justement le cours de le message. Et puisque je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là dès le début, que depuis quelques temps maintenant, pour ne pas dire depuis un an, je fais une série de messages sur le livre d'Éphésiens, qui est un livre qui à la fois nous parle de l'Église dans le ciel, de manière céleste, et de manière terrestre. Et, comme je vous disais la dernière fois, je suis heureux de voir que Dieu m'a fait grâce de me donner ce don de vous communiquer sa parole. Et je suis heureux de voir que peu importe l'église où je suis dans la famille de Christ. Ça, c'est très important. Car on l'a vu déjà dans le chapitre précédent dans le livre d'Éphésiens. Nous sommes tous une communauté temple. On est le temple du Saint-Esprit. Et peu importe l'endroit où on se trouve dans le monde, si nous rencontrons des chrétiens, ils font partie du même corps que nous. Ça, c'est important de se le rappeler. Dans un des messages précédents, je vous indiquais que Dieu m'avait fait la grâce que chaque mois, il me faisait vivre une expérience qui me permettait d'argumenter le message que j'allais vous apporter. Et encore une fois, Dieu ne déroge pas sa règle, en tout cas ses propres principes, puisque cette semaine encore, j'ai eu l'expérience incroyable de pouvoir servir le corps de Christ. En effet, il y a quelques semaines de ça, il y a un ami qui m'est très cher qui m'a appelé. Alors excusez-moi si je parle doucement, si j'ai pas de voix. Hier j'étais dans un parc d'attraction, ça m'a un petit peu fatigué la voix quand on descend. Donc il y a un ami qui m'a appelé il y a quelques semaines pour me demander de l'aider en des conseils sur l'électricité, puisqu'il rénove la maison de son pasteur, qui a acheté une ruine et qui a tout à refaire. Et il ne s'y connaît absolument pas, ni l'un ni l'autre. Il ne s'y connaît absolument pas. Et donc, il avait besoin de mes compétences. Alors, il m'est venu l'idée un petit peu folle de lui dire, bah, « Tiens, puisque je suis en vacances, j'ai quelques jours de libre, si tu veux que je vienne t'aider. » Alors, il m'a, à ce moment-là, raconté que son pasteur avait de tous les moyens, 3 enfants, une femme qui ne travaillait pas car elle était mère au foyer, elle ne travaillait pas encore et que cette nouvelle maison était en très très mauvais état. Et quand je vous dis que c'était une ruine, c'est que c'était une ruine. À part les 4 murs et le toit et quelques planchers, c'est tout ce qui restait. Et il doit emménager le 29 de ce mois-ci. Bonne chance. Donc tout le matériel électrique était à acheter, il n'y avait rien du tout. Mon ami m'a dit lui-même qu'il finançait cet achat, parce que le passeur a des petits moyens, mais il ne veut pas non plus forcément qu'on l'aide. Et donc, par un habile stratagème, on a fait en sorte qu'on puisse acheter le matériel en disant que voilà, c'est moi qui l'avais récupéré, mon père étant électricien, moi je l'avais récupéré au passage, on avait tout amené. Oui, on a menti, mais c'est pour la bonne cause. Donc, il a vu lui-même la détresse de son pasteur et avait proposé son aide et de l'aider financièrement. J'ai bien sûr, moi, proposé mon aide et demandé si je pouvais venir aider. Et en parlant à mes frères et sœurs autour de moi spontanément, 2 autres frères se sont proposés de m'accompagner. Ils ont renoncé à leur jour de vacances pour venir aider à la bonne œuvre du Seigneur. C'est leur propre parole. C'est en tout cas comme ça qu'ils l'ont pris. Nous sommes donc partis tous les 3 rejoindre mon ami pour aider son pasteur à Bourges, dans le centre de la France. Et donc, des témoignages, nous avons là la démonstration concrète de l'entraide que nous trouvons entre les membres du corps de Christ. Et c'est exactement ce que Paul va aborder dans le chapitre 4 d'Éphésiens, le chapitre que nous allons étudier aujourd'hui. Dans les chapitres précédents, nous avons parlé de l'Église d'un point de vue céleste, Paul faisait la description dans les trois premiers chapitres de l'Église céleste et de ce que ça avait changé pour nous. En effet, la formation de l'Église céleste a des conséquences spirituelles directes pour nous aujourd'hui. Maintenant, dans les trois derniers chapitres, Paul nous parle de l'Église d'un point de vue terrestre. Et dans ce chapitre 4 en particulier, nous allons aborder deux grands thèmes. Le premier, c'est que nous sommes membres du corps. On l'a vu d'un point de vue céleste, on va le voir d'un point de vue terrestre. Nous sommes membres du corps. Deuxième point, soigner nos relations dans l'Église. Soigner nos relations dans l'Église. Tout un programme. Lorsque l'on écoute ces deux grands thèmes, on peut se dire que cela est facile. Et bien, pas toujours. Nous allons voir que Paul aborde des sujets très précis et concrets et que l'on retrouve encore aujourd'hui dans nos églises. Je vous propose d'en faire la lecture. Chapitre 4 du livre d'Éphésiens, de la lettre aux Éphésiens. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a amené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions les plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête de Christ, qui est la tête Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacun, à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et dans la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, que celui qui donne, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Donc jusqu'ici la parole de Dieu. Et donc, premier point que nous allons aborder, c'est que nous sommes membres du corps. Dans cette première partie du chapitre 4, Dieu veut nous faire grandir pour enrichir son corps. Dès le premier verset, il nous parle de cet appel que nous avons reçu. Mais quel est-il, me direz-vous ? Quel est cet appel, justement ? Eh bien, il nous appelle à devenir membres de sa famille. Il nous appelle à nous conduire comme des enfants de Dieu. Nous l'avons déjà abordé dans les chapitres précédents. Paul le rappelle, car ce point est un point essentiel de la doctrine. Nous devons nous conduire comme des enfants de lumière. Il commence même sa phrase par dire « Je vous encourage ». Et c'est un premier point, c'est de nous encourager. Est-ce que nous nous encourageons suffisamment les uns les autres pour nous conduire comme des enfants de lumière ? On le voit souvent. Est-ce qu'on s'encourage suffisamment en disant « Voilà, prends courage et conduis-toi comme un enfant de lumière ». Paul va choisir ces mots de manière très pertinente. Il a choisi les mots « humilité », « douceur », « patience ». Les avons-nous toujours ? Il les a choisis pour une chose très claire, se supporter les uns les autres dans l'amour. Et faire cela nous permettra de conserver l'unité de l'esprit dans la paix. Conserver la paix, c'est conserver l'unité de l'esprit. Comment peut-on avoir l'unité de l'esprit si nous n'avons pas l'unité du corps ? À l'image du corps humain, lorsque une maladie auto-immune se déclare, le système immunitaire se déclenche pour attaquer un de ses propres organes. Le corps tombe donc malade parce qu'il s'attaque lui-même. Il n'y a donc plus d'unité et le corps tombe malade, le corps tout entier. Et quand le corps tombe malade, notre esprit tombe malade. Nous ne nous sentons pas bien, nous nous sentons complètement vides, évidemment. Le corps de Christ, c'est exactement la même chose. Si dans une église, les membres du corps ne s'entendent pas bien, comment conserver l'unité de son esprit ? Il nous invite à nous supporter les uns les autres, mais qu'est-ce que cela veut dire, se supporter les uns les autres ? Premier petit point, un des premiers petits points, c'est d'accepter l'autre. Il s'agit d'un frère ou d'une sœur, pas de n'importe qui. Il s'agit d'un prochain. Le prochain, c'est celui qui se rend proche. C'est quelqu'un qui est dans notre cercle et que nous avons déjà accepté. Si nous ne le connaissons pas, il n'y a pas d'autre choix que d'accepter sa présence. Ce n'est d'ailleurs pas un choix. Il est membre du corps de Christ. Nous n'avons pas à choisir s'il fait partie du corps de Christ ou non. Quant à l'accepter, d'un point de vue humain, cela est très différent. Rappelons les mots de Paul, il a dit humilité, douceur et patience. Nous devons avoir de l'humilité et voir le prochain qui se présente comme étant quelqu'un qui nous est supérieur. Faire cette démarche nous permettra d'avoir un regard d'humilité et d'accepter cette nouvelle personne au sein du corps de Christ quand nous ne la connaissons pas, quand nous faisons sa connaissance. Et même lorsque nous connaissons les personnes, avoir cette même démarche nous permettra d'avoir de la patience, d'avoir de la bienveillance et de nous comporter comme des membres du corps de Christ. Mais là, nous parlons simplement d'accepter quelqu'un. Nous pouvons, bien sûr, aller encore plus loin. Deuxième petit point, et bien sûr de soutenir l'autre, soutenir son prochain. Soutenir son prochain, c'est prier pour lui. Soutenir son prochain, c'est lui demander des nouvelles et poser des vraies questions. Une des premières questions souvent que moi je pose, c'est « Comment ça va dans ta foi ?» Je l'ai encore posé ce matin à un des frères ici présents. Ces questions-là, certes, elle a du sens, elle a un sens. C'est grâce à cette question que notre frère Émile a pu réfléchir au baptême. Nous devons aussi faire l'effort de nous livrer à nos frères et sœurs dans l'Église. Lorsque nous nous demandons comment ça va dans une église, il n'y a pas de pire réponse que « ça va, je te remercie ». L'église est justement l'endroit où nous pouvons dire « eh bien écoute, en ce moment, ça ne va pas fort ». Cela donnera des sujets d'édification du corps de Christ et permettra à notre prochain d'être béni parce que nous lui donnons l'occasion de se conduire en enfant de lumière et de prier pour nous. Paul exprime l'unité du corps de Christ au travers du sacrifice de Jésus. Il a fallu qu'il se sacrifie et qu'il meure pour que les juifs et les non-juifs se réconcilient, soient réconciliés par le sacrifice de Christ. Il a fallu que Christ meure pour que tous les habitants de la terre aient accès auprès du Père par le même esprit, s'ils le souhaitent évidemment. Et nous, qui avons accepté le salut de Christ, nous avons été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit, comme il l'a rappelé au chapitre 1. Paul nous le rappelle dans le verset 4 du chapitre 4. Il insiste fortement sur l'unité en nous rappelant qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père de tous. Pour que cela arrive, il a fallu que Dieu s'abaisse lui-même pour venir nous chercher. Il reprend justement un passage de l'Ancien Testament. Il est monté sur les hauteurs avec des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il est monté s'il n'était pas déjà descendu. Étant au-dessus de tout, il a fallu qu'il descende pour s'humilier, se mettre dans notre condition humaine afin de vivre les mêmes souffrances que nous, et de vivre la tentation du péché comme nous, afin que son sacrifice ait la valeur qu'il voulait lui donner. Cette valeur est inestimable, car nous sommes inestimables à ses yeux. Vous êtes inestimables à ses yeux, nous tous. Il est au-dessus de nous, et nous a tout donné. On l'avait vu le mois dernier, il nous a absolument tout donné. Il nous a fait des dons à la hauteur de ce sacrifice afin d'édifier son corps et de rendre gloire à Dieu. En effet, encore à l'image du corps humain, les organes et les membres ne font pas la même chose. Même la main droite et la main gauche, qui sont toutes les deux des mains, ne font pas la même chose quand vous les regardez. Elles ont les mêmes fonctions, mais ne sont pas identiques. Elles sont inversées l'une par rapport à l'autre. Et donc, s'il y a, par exemple, deux pasteurs dans une même église, s'il y a deux anciens dans une même église, s'il y a deux diacres dans une même église, sont-ils appelés à faire la même chose? Et vous, en tant que membre, êtes-vous tous appelés à faire la même chose dans l'église? Pour l'instant, on fait tous la même chose. Souvent, on chauffe une chaise. Mais il y a d'autres fonctions à faire dans une église. Et chacun d'entre nous qui sommes membres du corps de Christ, sommes-nous appelés à faire la même chose? Il y a tant de choses à faire dans une église. Les faisons-nous? Plutôt que de chercher les positions d'autorité, les positions de prestige, les positions d'enseignement, les positions qui nous permettent de nous mettre en valeur, recherchons d'abord les positions qui nous mettent en tant que serviteurs. Cela s'appelle avoir de la maturité spirituelle, car nous savons où est notre place. Notre place est en Christ et nous sommes enfants de lumière. Avoir une attitude sainte par rapport à la stature parfaite de Christ nous permet d'édifier le corps. Nous ne sommes pas des petits enfants qui font des caprices car ils veulent le plus beau jouet du voisin. Si quelqu'un veut prêcher, qu'il prêche dans l'église. Mais attention, il sera jugé plus sévèrement car il a un rôle d'enseignement. Prêcher n'est pas une gloire, c'est une responsabilité. Si quelqu'un veut présider l'Église, qu'il la préside, mais attention, il a des responsabilités bien plus importantes vis-à-vis de la loi. Présider n'est pas une gloire, ni une autorité, c'est une responsabilité. Avant de prétendre à quoi que ce soit, posons-nous la question de savoir si nous avons la maturité suffisante pour le faire. Tout cela édifiera le corps de Christ afin de faire éclater sa gloire. Réfléchir à l'unité et à la maturité nous permet de faire ressortir le meilleur de Christ en vous, en nous. C'est à mon sens ce que veut nous dire ce texte, cette première partie. Dieu veut nous faire grandir pour édifier son corps. Deuxième point, soigner nos relations dans l'Église. Dans la deuxième partie du chapitre, Paul nous appelle à vivre comme des enfants de lumière. Maintenant que nous avons changé de condition, nous avons la possibilité de changer de comportement. Nous ne sommes plus des enfants qui ont l'intelligence obscurcie et qui se comportent avec la sottise de leur pensée. C'est ce que Paul nous dit. Mais nous sommes au contraire des enfants guidés par l'Esprit. C'est par la parole de Dieu que nous pouvons changer de comportement. Nous avons par l'Esprit Saint la possibilité de ne plus vivre comme le monde qui se livre à sa perte. Choisir ses pensées, c'est choisir sa vie. Le monde a reçu la vérité en Jésus-Christ. Nous qui avons accepté cette vérité, nous devons nous débarrasser du vieil homme qui corrompt notre nouvelle nature. Cette vérité qui est en nous produit la sainteté et la justice. Si nous avons la vérité, il nous faut donc nous débarrasser du mensonge. Et à partir du verset 26, Paul va devenir très concret en nous donnant des instructions très claires sur la manière dont nous devons nous comporter les uns avec les autres. Et je suis le premier à confesser que je ne suis pas toujours dans cette bonne conduite. Combien de fois nous avons des paroles qui peuvent blesser, des paroles qui peuvent être moqueuses, des paroles qui ne sont pas édifiantes. Je vous relis le passage, c'est au chapitre 4, verset 26, qui dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler et qui se donne plutôt la peine de travailler honnêtement et de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par laquelle vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns vers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. » Pour moi, c'est une méthode de vie essentielle et c'est un crible. À chaque fois que je vais ouvrir la parole, et je ne le fais pas tout le temps malheureusement, je me pose la question, est-ce que ma parole est édifiante? Est-ce que je ne suis pas en colère? Est-ce que je ne suis pas plein d'amertume? C'est un crible pour savoir si ce que je vais dire à un frère ou une sœur est édifiant. Le Saint-Esprit est Dieu et est sensible à ce que nous faisons. C'est pour ça que nous devons soigner nos relations dans l'Église. D'expérience, je sais qu'il est bien plus important de dire ce qui nous a frustrés, choqués et blessés avec amour et bienveillance afin de ne pas laisser de quiproquos et d'amertume en nous. Il n'y a rien de pire que de ne pas exprimer une frustration. Ça pourrit et ça pourrit les relations. Il n'y a rien de pire de laisser les frustrations en suspens. Cela pourrit et va à terme finir par détériorer des relations. Ce n'est pas être dans l'amour, ni dans la vérité, ni dans l'unité de l'esprit du corps de Christ. Dieu nous appelle à nous transformer. Il a fait sa part en faisant une transformation incroyable dans les lieux célestes et donc spirituellement en nous. À nous donc de continuer cette transformation en marchant dans sa vérité et en faisant notre part, en nous conduisant comme des enfants de lumière. Et si nous reprenons l'ensemble du chapitre que nous avons lu, nous avons vu d'abord que nous sommes des membres du corps de Christ et que Dieu nous appelle à nous transformer. Dieu nous appelle à nous transformer. Apprenons donc à soigner nos relations dans l'Église. Apprenons donc à avoir de la maturité spirituelle. Apprenons donc à nous soutenir les uns les autres dans l'amour. Si nous l'avons appris, mettons-nous en pratique. Mettons-nous en pratique. Si nous le mettons déjà en pratique, encourageons-le. Encourageons nos frères et sœurs à faire également la même chose. Combien d'églises détruites par des divisions futiles? Combien de frères et de sœurs blessés quittant l'église car ils n'ont pas pu exprimer leur frustration ou non et ou n'ont pas su dire ce qui n'allait pas? Servons l'église avec humilité, maturité, vérité et justice. Conservons ainsi l'unité de l'esprit. Que Dieu vous bénisse et je vous propose de prier.